Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, c'est le 35e de la saison 6. Et puis je retrouve, à mes côtés bien sûr, Arnaud Berdelet qui rentre de vacances, journaliste milieu olympique. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain Rafut, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et surtout en travers. Au programme cette semaine, d'abord, comme chaque semaine, c'est Raph qui nous servira son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Et puis dans une deuxième partie un peu plus grave, nous recevrons ni un joueur, ni un entraîneur, mais un auteur. Ludovic Ninet est un ancien journaliste qui vient d'écrire Chantal, récit d'un féminicide aux éditions Presse de la Cité. Il est ici question de l'affaire Marc Cessillon, vous l'aurez compris, souvenez-vous, c'était le 7 août 2004, l'ancien troisième ligne du 15 de France, 46 sélections, tire 4 balles sur son épouse qui décède. Un drame qui a brisé évidemment une famille et secoué durement le rugby français. Nous allons longuement évoquer ce drame, mais surtout cet ouvrage qui fait une large place aux vraies victimes, comme le dit Ludovic Ninet, et qui remet en cause notamment l'omerta du rugby qui a régné autour de cette affaire. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief façon Poulain Rafut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller. Poulain Rafut, saison 6, épisode 35, c'est parti. Allez, première partie, la ruade de Poulain. Raph, je crois cette semaine que tu veux nous parler de ces joueurs professionnels qui, en fin de carrière, décident de faire le bonheur de petits clubs amateurs en mettant leur talent à leur service. C'est bien ça ?
Oui, Arnaud, en discutant avec le directeur général du club de Berne, Christopher Touron, un ami de longue date, 25 ans d'amitié, je me suis demandé si les clubs encore amateurs, avec de belles ambitions sportives, n'avaient pas pris le relais de ce qu'étaient les clubs de rugby avant le professionnalisme. On se souvient tous de ces anciens qui avaient un travail en parallèle de leur carrière de rugbyman et en parallèle de leur carrière, voilà, qui pouvaient travailler dans les années 80-90 à l'approche du professionnalisme. À l'annonce de la signature par le CO Berne de Stephen Armitage, j'ai demandé à mon ami de m'expliquer le rôle de ces clubs qui prennent le relais finalement de la reconversion de certains joueurs en fin de carrière. Alors déjà, ce n'est pas forcément une question d'argent. Les joueurs le savent, il s'agit vraiment d'un projet de vie que les clubs essaient de construire avec les joueurs en prenant en compte leurs attentes et celles de leur famille. Le but est clairement que tout le monde s'y sente bien et qu'un équilibre soit trouvé. Un joueur qui se sent bien dans sa vie, on en a déjà parlé Arnaud, avec ses proches, sera inévitablement dans les meilleures dispositions pour être performant sur le terrain, amateur ou professionnel. Alors je cite Christopher Touron, le recrutement d'un joueur de calibre de Stephen Armitage s'inscrit clairement dans cette logique. Nous lui avons simplement exposé notre ambition et comment il pouvait s'inscrire dans le projet. Ce serait une grande fierté de le voir porter nos couleurs et il aura un véritable rôle de leader à jouer. Il ne s'agit pas d'une folie, nos choix sont maîtrisés. En recrutant un tel joueur, cela booste à la fois forcément notre notoriété, notre visibilité sur les réseaux sociaux a explosé, d'où la volonté de l'annoncer rapidement afin de créer une dynamique autour de lui. D'autres joueurs de grande qualité vont aussi rejoindre le CO Berne, ne l'oublions pas. Avec l'ambition vient le recrutement ciblé autour de ces grands noms pour préparer l'effectif de la saison prochaine. Les clubs doivent être en mesure de proposer des formations dans le cadre d'un double projet de reconversion des joueurs en fin de carrière ou pour de jeunes aussi joueurs également. Le réseau de partenaires permet aussi de faciliter l'embauche ou l'installation d'un joueur qui aurait une activité d'indépendant. La pluriactivité permet de rester flexible. C'est le bon côté des choses. Nous devons rester agiles pour bénéficier d'une attractivité relative et trouver les meilleures alternatives selon les profils de joueurs ciblés. C'est un challenge permanent. De nos jours, des joueurs de tout horizon se parlent, beaucoup se connaissent, ils échangent beaucoup au travers des réseaux et les joueurs sont les meilleurs ambassadeurs. Mettre l'humain au cœur du projet semble essentiel pour tout petit club, pour un projet porteur de sens dans la durée. Le rugby est vecteur d'émotions à vivre ensemble où chaque saison est une aventure. En fin de carrière, le joueur doit être accompagné sur la durée pour se reconvertir au mieux après plus de 15 ans passés à très haut niveau. L'atterrissage peut être compliqué, on le sait, c'est pourquoi il faut rendre hommage à ces petits clubs, à ces clubs amateurs aussi, qui veulent aussi devenir un peu professionnels, qui, moins dans la lumière, accompagnent nos héros dans la vie d'après. Alors merci à Toffer Touron pour ce partage et bonne reconversion à celles et ceux qui vont arrêter en fin d'année.
Allez, deuxième partie dans Poulain Rafut aujourd'hui avec nous Ludovic Ninet. Il n'est ni joueur, ni entraîneur, ni président de club. Ludovic Ninet est un ancien journaliste devenu romancier. Son dernier ouvrage aux éditions des Presses de la Cité, Chantal, récit d'un féminicide, revient sur la vie de Chantal, Chantal Cessillon, abattue par son mari Marc, ancien international français. Souvenez-vous, c'était le 7 août 2004, l'ancien troisième ligne du 15 de France, 46 sélections. Alors, en état d'ébriété avancée, tirait 4 balles sur son épouse. Qui venait à décéder, un drame qui a brisé évidemment une famille et qui a durement secoué le rugby français. Nous allons longuement revenir sur ce drame, mais surtout sur cet ouvrage qui fait une large place aux vraies victimes, hein, comme le dit Ludovic Ninet, on va en parler avec lui, et qui remet en cause notamment une partie du rugby français et notamment l'omerta qui règne et qui a régné autour de cette affaire. Raph, tu as lu de nombreux articles, hein, concernant cette affaire et tu voulais absolument recevoir Ludovic pour mieux comprendre certains aspects de ce drame qui a secoué le rugby français, c'est bien ça ?
Oui, c'est vrai. Et puis aujourd'hui, le féminicide est pris à bras-le-corps, et tant mieux. Enfin, la question ne se pose même pas. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais encore en carrière, mais quand le procès avait eu lieu, je commençais ma fin de carrière et mon après-carrière compliquée, comme tu le sais, comme beaucoup le savent. Donc, j'avais mis aussi Marc Cessillon dans la case un peu des victimes, en fait, du système, ou la manière dont on peut être glorifié, l'alcool aussi derrière. Et il s'avère qu'on a peut-être beaucoup moins pensé, en fait, à la victime principale, qui était sa femme et aussi ses filles. Donc, je voulais déjà te saluer, Ludovic. L'initiative vient aussi d'Arnaud quand même, parce qu'on avait envie d'en savoir un petit peu plus, et surtout cet ouvrage, et de parler des victimes. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Pardon. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de cet ouvrage en clair ? Comment t'es venue l'idée de revenir sur cette affaire ?
Bonjour, merci à vous de m'inviter. En fait, moi, après avoir été journaliste, j'ai écrit des bouquins de fiction. Et j'ai écrit deux polars, notamment au début, et je m'étais dit qu'il y avait peut-être moyen d'exploiter ce drame pour en faire la trame d'un polar, en y étant plus ou moins fidèle. Voilà, donc j'avais récupéré beaucoup de documentation sur ce sujet en 2012, puis j'en ai rien tiré finalement, il n'y a rien qui s'était déclenché. Et 5 ans après, en 2017, en fait, à un moment où j'étais en charge de projet d'écriture, j'ai rouvert mon carton où j'ai toute ma doc, et puis je suis retombé sur l'enveloppe Kraft avec tous les articles, et puis là, j'ai lu, j'étais complètement happé par cette histoire, et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Alors au départ, c'était à nouveau pour faire une fiction, un roman, mais c'est comme si le journaliste en moi s'était un peu réveillé, et je me suis dit que pour raconter cette histoire, il fallait que j'en sache plus. Alors que la fiction, au contraire, aurait pu me libérer. J'aurais pu me dire que j'avais quelques éléments, puis maintenant je brodais mon histoire. Et bien non, à l'inverse, j'ai eu besoin de chercher, donc j'ai recommencé à passer des coups de fil pour interroger des gens, soit qui avaient suivi l'affaire, soit qui avaient côtoyé Marc Cessillon. Voilà. Et de fil en aiguille, je me suis mis à travailler sur ce sujet.
Pour bien comprendre, comme tu le disais, hein, tu es journaliste à l'équipe en 2004, mais tu ne t'intéresses pas plus que ça à ce drame qui est en fait un fait divers. Pourquoi ce livre 20 ans après moi, j'ai lu aussi dans l'article, je pense qu'on va en parler, tu parlais de la pierre tombale où on ne voit que le prénom en fait de la femme de Marc Cessillon. C'est bien c'est un déclic en fait qui t'amène justement à te plonger un peu dans les archives.
La tombe, je l'ai vue une fois que j'avais commencé à travailler le sujet. Au moment des faits, effectivement, en 2004, je pense que comme pas mal de gens, ça a été un choc sur le moment, pendant quelques jours. Et puis après, je dirais que l'actualité sportive, en tout cas pour moi, hein, l'actualité de mon métier a repris le dessus. Et puis c'est un peu passé. Ça a été un peu choquant sur le moment. Je pense qu'on a tous été à la fois choqués et peut-être pas complètement surpris, je dirais. C'est peut-être un peu bizarre de le formuler comme ça, mais... on entendait dire beaucoup de choses sur Marc Cessillon, justement sa fin de carrière, ses difficultés, mais c'était toujours dit par peut-être par des anciens, par un peu sous couvert de on disait pas trop quoi. Donc voilà, ce truc est arrivé. Pourquoi le bouquin maintenant ? Parce que comme je disais, en 2017, j'ai voulu peut-être l'exploiter à nouveau, et je prends exprès ce terme parce qu'il y avait un côté me servir de cette histoire, et puis ce livre, il s'est transformé en fait au fil du travail que j'ai effectué de recherche, parce qu'au début, j'étais encore complètement acquis, on va dire, à l'histoire telle qu'elle avait été racontée, c'est-à-dire le drame d'un homme. Et puis en cherchant, en questionnant, j'ai trouvé qu'il y avait des choses bizarres, et donc l'invisibilité de la victime notamment, plus le temps passait, plus ça m'a sauté aux yeux. Voilà. Et c'est ça qui fait que je suis arrivé à ce livre, voilà.
Ludovic, pour bien comprendre, est-ce que tu peux nous dire finalement, est-ce qu'il y a eu un moment clé, un déclic particulier, un momentum, comme dirait Fabien Galthié, pour reprendre la métaphore rugbystique, le moment où tu te dis, bah, finalement, non, il ne faut pas que je parte sur une fiction. Je dois faire un vrai livre de témoignage, finalement.
Alors, ça, c'est... Il y a vraiment le moment où je me retrouve pour la première fois sur la tombe, devant la tombe de Chantal, où je dirais qu'elle s'est incarnée à ce moment-là. Hein. C'était quelqu'un dont j'avais brièvement entendu parler par quelques personnes qui me parlaient en off et qui me parlaient beaucoup de lui et un tout petit peu d'elle. J'avais réussi à retrouver quelques rares documents vidéo où on la voit s'exprimer, quelques rares photos aussi sur Internet, mais c'était difficile à trouver. Et puis, à la faveur d'un déplacement dans le coin, voilà, je suis allé sur cette tombe. Et là... Ouais, je sais pas, ça a été quelque chose d'assez bouleversant et je me suis dit que je sais pas, je me sentais, j'avais plus le droit en quelque sorte de faire une fiction, voilà. Et puis après, l'autre point de bascule, c'est la rencontre avec la fille cadette
Céline.
Voilà, Céline, fille cadette de Chantal et Marc Cécillon. J'ai relu là avant qu'on se parle la lettre que je lui ai écrite et ouais, je dis bien dedans que j'ai envie de qu'il y a une démarche vis-à-vis de sa mère, quoi. Et donc ça veut dire que ça avait vraiment en plusieurs mois, ça m'avait vraiment vraiment travaillé et je me disais que c'était un livre pour cette femme que je devais écrire, voilà.
Quelles ont été les difficultés rencontrées avant l'écriture du livre ou même pendant aussi parce que on l'a dit, hein, et on va en parler, hein, l'omerta du monde du rugby autour de cette tragédie, et au-delà de ça, de ces problématiques d'alcool, de dépression, d'après on va y venir. Hein. Mais quelles ont été les difficultés pour toi justement d'écrire ce bouquin, ou en tout cas de l'anticiper, de le préparer ?
Alors dans le travail, en fait, ce qui a été difficile, c'était de trouver des gens qui acceptaient de parler. Déjà, simplement ça. Et alors, la plupart des gens ont... Les rares personnes qui ont accepté de me parler, c'était en off, qui ne voulaient pas apparaître. Voilà, j'ai sollicité très rapidement la sœur aînée, j'ai sollicité le juge d'instruction, l'avocat donc des parties civiles. J'ai sollicité plein de gens, en fait, et ça ne marchait pas, quoi. Ils ne voulaient pas me parler. Et c'était une forme de silence qu'il fallait réussir à percer, en fait. Et en même temps, c'était gênant et en même temps, c'était un grand enseignement parce que ça voulait dire quand même quelque chose de cette histoire, que ce soit une omerta, moi, je serais plus mesuré, je reste vraiment sur l'idée du silence, quoi. Les gens ne voulaient pas parler de cette histoire, alors qu'omerta, je vois ça plus comme quelque chose vraiment d'organisé. Là, je ne suis pas sûr que ce soit organisé, c'était juste une énorme gêne de parler de cette histoire. Voilà.
Et comment tu l'expliques, ça, Ludovic ?
Et juste pour le deuxième aspect de la question, après sur l'écriture, j'ai pas eu trop de soucis d'écriture en fait. Une fois que j'ai eu que Céline m'a parlé et que j'ai eu son témoignage, ça m'a vraiment. Là, j'ai su que je pouvais faire le livre. Alors qu'avant, jusqu'alors, je me disais que j'avais envie de travailler ce truc-là, mais j'y arrivais pas. Ça, voilà. Et tout d'un coup, là, il y a eu le vrai point de bascule pour pouvoir faire le livre et l'écrire, c'est le témoignage de Céline.
Vas-y, Raph, pardon.
Non, mais on sait que tu as rencontré, entre autres, la maman de Chantal, l'ex-femme de Marc Cession. Tu as rencontré donc une de ses filles, Céline, on en parlait. Est-ce que ça a été à la fois facile de les convaincre de témoigner, et puis au cours des différents entretiens, qu'est-ce que tu as appris que tu ne savais pas
Alors, les convaincre, en fait, ça a été finalement assez facile, dans le sens où, au moment où je me suis décidé à contacter Céline, c'était le bon moment, j'imagine, pour le faire, je sais pas, et puis j'ai probablement eu des mots qui l'ont touché, enfin j'imagine que ma démarche, parce qu'elle m'a appris après qu'elle avait été sollicitée par d'autres journalistes avant et qu'elle avait toujours refusé, là je pense que c'était dire que je m'intéressais et à elle et à sa maman et que je voulais sortir sa maman du seul statut de victime, mais voilà, qu'elle redevienne cette femme qu'elle avait été au moins un peu. Je pense que c'est ça qui lui a dit que ma démarche était authentique. Et puis après, c'est la chance de la rencontre et le fait que cette rencontre se soit bien passée, quoi. Parce que je pense que ça aurait pu aussi ne pas matcher. Parfois, ça arrive. Et voilà, donc une fois qu'après, je suis rentré dans la confiance avec elle, c'est elle ensuite qui m'a mis en relation avec sa grand-mère, puis avec la meilleure amie de Chantal. Et là, il y avait une confiance a priori, je dirais, compte tenu de ma démarche. compte tenu du propos que je voulais défendre dans le livre, elles étaient de toute façon ouvertes à, enfin, prêtes à s'ouvrir à moi, quoi.
Moi, j'aimerais revenir. Il y a un mot que tu emploies, Ludovic. Tu parles d'omerta, mais justement en disant que tu as le sentiment de ne pas t'être heurté à une omerta, mais plutôt à un silence gêné. Comment tu l'expliques, ce silence gêné de la part notamment de personnalités issues du monde du rugby?
Alors là, c'est vraiment mon interprétation. Je me dis, mais c'est quand même aussi ce qui, je pense quand même, ce qui ressort pour en avoir discuté depuis avec des personnes de la région, c'est qu'il y a quand même un poids énorme de cette histoire qui pèse encore là-bas. Et moi, je l'interprète comme les gens, ils se sont sentis peut-être un peu responsables d'avoir. Alors pour certains, ça dépend de la position qu'ils pouvaient avoir par rapport à cette histoire, mais certains qui étaient peut-être très proches et qui ont beaucoup vu et beaucoup laissé faire, peut-être on pourrait dire ça comme ça, ou d'autres qui avaient entendu et puis qui ne se sont pas plus intéressés que ça. Et donc, ça donne le sentiment d'une espèce de culpabilité générale, je dirais, une culpabilité collective. C'est comme ça que je l'ai interprété.
Oui, culpabilité collective. Et puis, le mot omerta, alors, au-delà du procès de Marc Session, et je pèse mes mots parce que ça fait quand même des années que je m'intéresse justement à l'après-carrière et ces problématiques qui peuvent amener à des drames, tu vois. Il y a eu quand même 5 voire 6 suicides dans le rugby depuis 2014. On est sur un sujet particulier avec Marc Session, je l'entends vraiment bien. Et je disais d'ailleurs au début que je trouvais qu'il avait été victime de cette la manière dont on met sur un piédestal les sportives et les sportifs, et qu'est-ce qu'on en fait après. Donc il reste un peu avec une caricature un peu de, je dirais, le coq sur le cœur, le capitaine du 15 de France, les sélections, la star de Bourgoin, mais on en oublie complètement justement le que la victime, c'est pas lui. Mais cette omerta, elle existe dans le rugby, sur l'aveu de faiblesse, sur le droit à la faiblesse, sur l'alcool, toutes ces problématiques-là. Est-ce que tu as déterré un petit peu tout ça aussi au fil de cette, je ne veux pas dire enquête, mais de tes recherches pour ce livre. Je ne sais pas si je suis très clair, tu vois ce que je veux dire. Il y a beaucoup de silence en fait autour de ces problématiques qui amènent justement ce genre de drame.
Disons qu'on pourrait dire que le cas, on va dire, de Marc Session peut être un symbole et un symptôme, on va dire, de ce vedettariat qui tourne mal à un moment. Ça, c'est sûr, puisqu'il a été vraiment une telle idole au niveau local. Il a été un très grand joueur et un très grand joueur particulièrement à Bourgoin. Et d'ailleurs, je parle dans le livre de la fabrique du héros, et donc là-dedans, il est sûr que il y a une. Elle vient de là aussi, la responsabilité collective. C'est le côté où c'est un homme qui, est porté au nu. Alors, comment est-ce qu'on garde le recul par rapport à tout ça? Ça, c'est très compliqué, évidemment. Donc, il y a cette partie-là. Il y a la partie peut-être de l'impunité, où de tout ce qui a été rapporté, c'est que des écarts de conduite, il en a eu un certain nombre, et que s'il a toujours été protégé, ben, on peut peut-être qu'au bout d'un moment, il s'est senti libre de continuer d'agir tel qu'il l'entendait. Et puis après, c'est sûr qu'il y a l'alcool. Alors l'alcool, ça c'est un problème. Je dirais dans la société française, hein, c'est pas propre au rugby, mais c'est sûr que c'est très présent dans le rugby, notamment via la troisième mi-temps. Et voilà, on pourrait dire que lui, il englobe un peu toutes ces problématiques-là de manière très exacerbée. Mais c'est vrai qu'après, ça, c'était aussi quelque chose d'assez masquant, puisque tout le monde s'est concentré là-dessus. Alors que, et c'est ça que j'ai découvert, moi, notamment par les témoignages que j'ai reçus, c'est qu'en fait, la cause du meurtre, elle n'est pas là-dedans. Ça, c'est tout un contexte qui favorise peut-être un passage à l'acte. En tout cas, c'est très bien expliqué par des psychiatres que je cite dans le livre, où ils expliquent que dans les cas de violence conjugale et les violences notamment faites aux femmes, il y a une violence énorme qui est contenue, parce que par quand même la société qui est là, toute la culture qui fait qu'on n'ose pas forcément passer à l'acte, mais la prise d'alcool, la prise de drogue peut justement permettre tout d'un coup l'explosion de cette violence. Et dans le cas du meurtre de Chantal Session, c'est ce qui s'est produit. Et donc en fait, c'est ça moi que j'ai compris, c'était qu'il y avait les racines du crime, c'était pas ce qui avait été présenté lors des procès, elles étaient bien plus anciennes, bien plus profondes, et elles prenaient dans la relation toxique, en fait, dans le couple.
Ah, de vite, le procès de Marc Cessillon s'est tenu. Hein. Il a été condamné à 14 ans de prison. Il a pu, finalement, avec le jeu des remises de peine, être libéré au bout de 7 années d'emprisonnement. Est-ce que tu as cherché à le rencontrer ou est-ce qu'au contraire, tu as préféré faire fi totalement de son cas, entre guillemets, hein?
En fait, ma position, elle a changé au fur et à mesure de mon travail. C'est-à-dire qu'à l'origine, alors je ne l'aurais pas de toute façon contacté d'emblée. Je voulais aussi en apprendre plus sur l'histoire avant de le faire. Au départ, ce n'était pas exclu. Et puis après, en fait, j'ai écarté cette possibilité parce que pour moi, on va dire sa version ou la version de la défense ou l'histoire telle qu'elle avait été racontée pour lui ou à travers lui, on la connaissait déjà, elle avait déjà été racontée, et au contraire, la version des personnes tout d'un coup dont je portais la voix, c'était celle-là que je voulais porter, et il n'y avait pas de raison de chercher à redonner la voix de l'autre côté, en fait. Et ça, c'est ce que la littérature m'a permis, c'est-à-dire de prendre un parti pris. Voilà, que j'assume clairement. Je porte la voix de personnes dont j'estime qu'elles ont été invisibilisées, écrabouillées. Voilà, j'ai trouvé juste de le faire et je me suis contenté de ça.
Tu racontes dans différentes interviews que tu as données depuis la sortie du livre qu'en te documentant, tu as relu pas mal de témoignages justement de personnalités du rugby au moment du procès, des personnages emblématiques. Et tu disais, hein, dans un entretien à Midi Olympique paru hier, peut-être beaucoup questionné par rapport à ces propos de ces personnalités au cours du procès, où finalement tout le monde semblait prendre plus ou moins la défense de Marc Cessillon alors qu'il venait d'abattre sa femme de 4 balles de 357 Magnum.
Oui, c'est vrai que ces témoignages, ils ont été rapportés dans la presse dès le lendemain de l'audience, hein. Avec plus ou moins d'ironie ou plus ou moins d'interrogation aussi de la part des journalistes. C'est vrai que c'est surprenant, hein. C'était pour les citer, hein, c'était notamment Bernard Lapasset, président de la Fédération française de rugby à l'époque, et Serge Blanquot, président de la Ligue nationale de rugby, Lapasset avait été président de la Fédération pendant que Marc Cessillon jouait en équipe de France, et Serge Blanquot avait côtoyé Marc Cessillon en équipe de France. Et c'est vrai qu'ils sont, ils sont venus le présenter comme quelqu'un d'irréprochable. Enfin, et bon, ces quelques propos déjà peuvent questionner, parce que même si on peut être attaché à quelqu'un, j'imagine qu'un acte comme celui-là, ça fait forcément prendre un certain recul, une certaine distance, et là, il semble qu'il n'y en ait pas eu du tout. Et puis, il suffit de lire ce que je rapporte des propos de Céline, qui, à l'époque, elle est là, elle les entend raconter que son père est un type formidable, alors qu'on est dans une cour d'assises, qu'il y a une femme qui a perdu la vie de manière extrêmement sauvage, et on est en train de raconter que c'était un bon gars, quoi. Et je sais pas, ça me questionne, moi, sur le degré de conscience de ce qui s'était vraiment produit. Voilà, mais c'est tout.
Il y a beaucoup d'affaires liées à l'abus d'alcool qui ont touché le rugby français, alors à la fois ces dernières années, mais aussi ces derniers mois. Est-ce que tu penses que tu as été rugbyman toi aussi, est-ce que tu penses que le rugby pro et amateur a un problème avec l'alcool?
Un sécateur, Ludovic Ninet était un sécateur.
Merci, c'est gentil. J'avais à peu près que ça pour moi sur un terrain de rugby. Ah, c'est difficile de dire le monde du rugby en règle générale. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, sans l'alcool, c'est dans la société française, dans plein d'autres sociétés. Voilà, c'est un peu un cliché de le dire. Mais après, dans le rugby, je pense que ce que je disais aussi dans le middle, c'est quelle est la limite entre faire une bonne soirée avec de l'alcool qui désinhibe et qui permet de fraterniser d'une manière réellement extraordinaire, parce qu'on ne peut pas nier que la troisième mi-temps, dans ces conditions, crée des liens incroyables, et à quel moment ça bascule dans autre chose. Et voilà, après, le rugby, c'est un sport qui met tellement en jeu la virilité. Voilà, si ça désinhibe jusqu'où la bagarre, bah oui, on en entend quand même beaucoup parler. Donc, est-ce qu'il y a un problème avec l'alcool? Il y a en tout cas un usage de l'alcool qui, dans un certain nombre de situations, déborde Je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, j'imagine que dans ces cas-là, ça peut devenir problématique, quoi.
Ludovic, une question un peu, on va dire, clashante, entre guillemets. C'est évidemment, tu l'as souligné, en tout cas, tu as effleuré le sujet en disant que le rugby français et certaines personnalités avaient peut-être un peu trop couvert les frasques de Marc Cessillon. À la lueur de l'enquête que tu as menée, à la lueur de toutes les recherches, de toutes les personnalités que tu as rencontrées, est-ce que tu as le sentiment que finalement, que le rugby français a une part de responsabilité dans le meurtre de Chantal Cessillon?
Alors, je trouve ça difficile de dire le rugby français, mais ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une part de son entourage, et on pourrait voir des cercles de l'entourage très proches, moins proches, qui, de manière plus ou moins forte, je pense, oui, a une part de responsabilité. À partir du moment où on couvre, voilà, ça peut créer le sentiment d'impunité. Mettre quelqu'un sur un piédestal, ben forcément, ça finit par avoir une influence, j'imagine, sur sa psyché. Détourner le regard, peut-être, de choses qu'il ne faudrait pas voir. Oui, il y a une forme de responsabilité. Peut-être venir à un procès et dresser le portrait idyllique de quelqu'un qui vient de faire ce qu'il a fait. Peut-être aussi, c'est une part de responsabilité. Après, je pense que c'est vraiment un contexte qui est très propre à ce qui s'est passé là-bas, aux personnalités aussi qui géraient le club, j'imagine, à l'époque de ses débuts en tout cas. Une ville qui a trouvé tout d'un coup son héros, peut-être que dans une autre ville où il y aura eu d'autres héros, d'autres grands joueurs ou sur des activités très différentes, là, il se trouve qu'il a vraiment incarné quelque chose dans une ville particulière. Donc, je pense que c'est très propre au contexte.
Mais globalement, tu as senti quand même une volonté de protéger finalement l'image, les valeurs du rugby français dans cette affaire, en tout cas de minimiser peut-être les responsabilités.
Et alors, en fait, il y a eu ce comportement, ouais, de minimiser. Après, je ne sais pas faire la différence entre est-ce qu'il y a eu une volonté ou est-ce qu'il y a eu juste un certain degré d'inconscience, je dirais. Voilà. Après, dans ce qui m'a été rapporté, je pense que la communauté locale, puisque c'est raconté hein, dans le livre, où il y a eu une forme, manipulation c'est peut-être un peu fort, mais une forme d'emprise un peu sur une des deux filles, sur la fille aînée, sur les procès, pour raconter l'histoire d'une certaine manière, ça c'est sûr. Et je peux raconter une scène qui m'a été elle-même racontée par Céline. C'était quand à la fin d'un des procès, Marc Cessillon donc va repartir en prison. Et il y a des gens qui s'approchent des filles en disant allez embrasser votre père, il va partir. Après vous allez le louper quoi. Et alors il y en a une qui y va et l'autre Céline qui m'a parlé. Elle dit mais en fait qu'est-ce qu'on est en train de m'en raconter? Son père a tué sa mère, elle souffre de la disparition de sa mère, de ce crime épouvantable, et quelqu'un vient la voir en lui disant bah, « va vite embrasser ton père ». Je sais pas, c'est... Voilà. Je trouve que ça, c'est vraiment symptomatique du climat, du contexte voilà, dans lequel ça s'est passé.
Juste une dernière question, Ludovic, par rapport justement aux différents témoignages que tu as recueillis. La sœur aînée de Céline, Angélique, n'a pas souhaité te rencontrer?
Non, je lui ai écrit deux fois. Voilà, elle m'a même jamais répondu. Voilà, je sais pas pourquoi. Après, moi, je trouve que j'ai une chance incroyable de tomber sur ces trois personnes qui m'ont livré vraiment et leur peine et avec une authenticité incroyable, quoi, qui ont raconté tout ce qu'elles avaient sur le cœur. Oui, c'est ce que j'ai compris aussi en discutant avec elle, j'ai oublié de le mentionner, c'était qu'il a été raconté beaucoup dans les journaux, en tout cas, ça c'est vraiment quasi général, qu'il y avait une vraie unité et entre les deux familles, et entre les membres des familles, et que tout le monde se serrait les coudes, en fait, alors que ce que j'ai compris, c'est que ce n'était pas du tout le cas, et que la partie, on va dire, les parties civiles, les filles... la mère de la victime et puis les éventuels amis étaient vraiment physiquement déjà en minorité et puis se sentaient presque autant accusés que l'accusé parce que n'ayant pas une position bienveillante à son égard. Hein, voilà. Ça, alors que ce n'est pas du tout ce qui avait été raconté dans les journaux.
On l'a dit, hein, la société évolue. Je pense que les féminicides, voilà, sont de plus en plus mis en lumière, à juste titre, et il le faut. Est-ce que tu penses que dans le microcosme du rugby, ton livre sera bien accueilli? Alors, l'avenir nous le dira, mais moi, je trouve ça quand même super courageux. Et merci aussi de nous montrer un peu l'envers du décor, parce que sinon, on reste sur ce côté victimaire de Marc Cession sans prendre en considération la victime comme tu l'as fait. Donc, déjà, chapeau pour ça. Et derrière, est-ce que tu penses que ouais, le microcosme du rugby s'ouvre de plus en plus à ce genre de problématiques? Et alors, on a parlé de l'alcool, on a parlé de. Il y a eu des suicides dans le rugby. Enfin, typiquement, ce genre d'ouvrage, selon moi, en fait, peut aussi ouvrir les consciences sur ce qui se passe dans notre microcosme, qui est notre sport.
Alors est-ce qu'il va être bien accueilli? J'avoue que je sais pas, je sais pas. Je me suis pas vraiment posé la question en fait. Je trouvais juste à un moment, j'ai trouvé ça, c'est le mot que je trouve, c'était juste de faire ce livre, donc je l'ai fait. Après, je sais que Pierre Martinet, le président de l'époque de Bourgogne, des années 90 et début des années 2000, s'est exprimé dans le Dauphiné. Il a été interrogé sur le sujet et lui, il a dit que, bah oui, en gros, ils avaient commis une erreur, quoi, de ne pas s'intéresser à cette femme. Alors, bah, je trouve ça appréciable, en tout cas, qu'ils reconnaissent une éventuelle erreur de sa part, quoi. Après, je ne sais pas comment le milieu du rugby, est-ce qu'il peut. Je pense que ça dépendra complètement des gens, des individus, quoi. Parce que c'est vrai que si ça remet en, enfin, si ça expose des travers par rapport à l'alcool, etc., c'est pas forcément, ce sera pas forcément très bien perçu, je ne sais pas. Mais je trouve que le rapport de toute façon qu'on peut avoir aux femmes, il est important d'en parler. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça important de dire que tout comportement agressif envers une femme, eh ben, il est à proscrire. Donc voilà, il faut que ces choses-là changent. Et si les gens le prennent mal, bah, tant pis. Mais en tout cas, moi, je trouve ça juste de dire qu'il faut que tout ça cesse, quoi. Voilà.
D'ailleurs, Ludovic, pour conclure, on comprend bien que ta volonté n'est pas ici de refaire le procès du rugby ou de Marc Cession, mais plutôt de redonner toute leur place, finalement, aux vraies victimes, hein, comme tu le dis, hein, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça. Je trouve que. C'est vrai, c'est vraiment ce que j'ai perçu, en tout cas chez Céline la première, quand on en a parlé, où elle a vraiment dit qu'elle voulait faire ça pour qu'il soit plus que question de lui. C'est comme si il y avait un côté, une personne a été éliminée, mais elle a été éliminée physiquement, elle a été éliminée dans l'histoire, elle avait été éliminée partout. Or, c'était une personne, de ce que j'en ai compris, qui était lumineuse, qui était d'une force incroyable. Je veux dire, cette femme, elle avait tenu la baraque au propre comme au figuré pendant tellement d'années, tenu le magasin, et puis ensuite, en même temps qu'elle tenait un magasin, elle a fait une formation pour trouver un autre boulot, pour aller faire sa vie ailleurs, pour partir petit à petit. Voilà, donc j'imagine à quel point pour ces personnes qui étaient proches d'elle, qui avaient peut-être perçu la chose, ou en tout cas sentaient, pour l'une d'entre elles, sa meilleure amie, sentait vraiment que la situation se dégradait, cette fin épouvantable, et puis. Bah oui, si on pouvait redonner sa lumière un peu à cette femme, donc moi par mon écriture et ces femmes, elles par leur témoignage, bah c'était ce qu'il fallait faire. Et c'est vrai que c'était de rappeler que dans l'histoire, même s'il n'est jamais heureux dans l'histoire des hommes qu'un homme, un être humain finisse par ôter la vie de quelqu'un, et c'est un drame dans la vie du tueur, il y a aucun. Je ne remets pas du tout ça en question, mais le drame, il est quand même autrement plus terrible pour la personne qui perd la vie, quoi. Ouais.
Merci Ludovic. Je crois que le mot de la fin était juste parfait. Je rappelle, hein, Chantal, récit d'un féminicide aux éditions des Presses de la Cité, à retrouver évidemment dans toutes les bonnes librairies. Raph, un dernier mot. On sait que tu es sensible à tout ce qui touche la reconversion, la précarrière. Tu le témoignes souvent à propos de ton parcours un peu chaotique post-rugby. Et on savait que ce sujet te toucherait particulièrement. Le mot de la fin, il est pour toi, Raph.
Bah, je ne vais pas m'étaler parce que j'ai appréhendé aussi cette émission parce qu'on est sur un sujet qui est tellement délicat mais qu'on ne pouvait pas passer sous silence parce que comme tu l'as dit, moi, une après-carrière où en fait les coups psychologiques que j'ai pu porter aussi à ma femme sont tout aussi violents que des coups physiques et je pense qu'avec l'évolution de la société, les cris des femmes qu'on entend aujourd'hui, l'homme doit se remettre en question et comme le rugby est quand même sacrément patriarcal, masculin, des couilles, du cœur, cette notion de groupe, cet esprit d'équipe en fait nous amène parfois à franchir la ligne blanche et qu'il est important de mettre en lumière nos comportements, les comportements des hommes, parce que quand on franchit la ligne blanche, il y a des victimes en face. Donc j'ai une petite pensée aussi pour ma femme et je t'avoue qu'hier soir, ça a été délicat pour moi J'en ai parlé à ma femme et c'est vrai que les après-carrières sont compliquées et je pense qu'elles sont d'autant plus compliquées pour les personnes qui accompagnent les sportives et les sportifs sur ces fins de carrière. Donc, je tiens à te remercier, Ludovic, en tout cas pour le livre que moi je vais lire et qu'il fallait mettre en lumière parce que voilà, il en va de la responsabilité des journalistes. Et Arnaud, c'est toi qui l'as proposé ce sujet et il était important de le faire. Donc, je tiens à te remercier aussi parce qu'on pense beaucoup aux sportifs quand ils se cassent la gueule, mais on pense rarement aux personnes qui sont à côté. Donc, merci beaucoup, Ludovic, en tout cas.
Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup.
Allez, dernier mot, Chantal, récit d'un féminicide. On l'a dit aux éditions des Presses de la Cité et nous, on va enchaîner évidemment avec la troisième partie de Poulain Rafute. Allez, troisième partie dans Poulain Rafute. La transition n'est pas simple après le sujet délicat que nous venons d'aborder, évidemment avec Ludovic Ninet. On va revenir au rugby, au sport, aux sportifs, mais aussi une polémique qui est née le week-end dernier. Beaucoup d'observateurs, Raph, ont tiré sur Wayne Barnes, l'arbitre de la rencontre entre le Leinster et le Stade Toulousain. Et Antoine Dupont, lui, a clairement dit, quand tu prends 40 points, il n'y a pas de commentaire à faire. Et je crois que tu es plutôt d'accord avec le capitaine du 15 de France et du Stade Toulousain.
Mais absolument. Et puis, c'est toujours délicat quand on est français. Alors, on prend parti pour l'équipe, justement, française face au Leinster. On sait que l'Irlande, en plus, première nation mondiale, a gagné le tournoi. Donc, voilà, revenir sur l'arbitrage, je pense que déjà, c'est une erreur parce que ça remet encore en cause la personne qui, de toute façon, ne peut pas être remis en cause, c'est l'arbitre. Et puis, derrière, voilà, ce mec est parfait quand même, Arnaud. Ce type est parfait, Antoine Dupont est parfait. On se souvient des déclarations au sortir du match contre l'Irlande, justement. On se souvient des déclarations au sortir du tournoi. Et à chaque sortie médiatique, en fait, c'est toujours juste chez Antoine Dupont. Et c'est vrai, bah, t'en prends 40 et tu la fermes, tout simplement. Alors oui, il y a eu deux cartons jaunes. On peut parler de décisions litigieuses, mais au-delà de ça, voilà, le Leinster, comme l'équipe d'Irlande, souvenons-nous, contre l'équipe de France, avait roulé justement sur le coq. Eh bien, l'équipe d'Irlande, le Leinster aujourd'hui, sera en finale contre La Rochelle, et on va en parler. Toulouse a perdu, et puis voilà, chapeau aussi au vaincu, et surtout chapeau au capitaine qui a toujours le mot juste. Et voilà, maintenant, il faut fermer sa gueule et puis se remettre un boulot. C'est un petit peu le message qu'il a fait passer. Ils sont encore en bonne place et je pense qu'ils peuvent faire encore un résultat en top 14. Je leur souhaite en tout cas de finir en finale contre le Stade français avec la victoire du Stade français. Voilà, ça c'est cadeau. Allez, petit coup de cœur au stade, on verra. Utopie, toi tu nous tiens, voilà.
Allez, d'un coup de cœur à un autre, le suivant, il est pour le merveilleux public Rochelet, Raph. Il était 40 000 à Bordeaux dans une ambiance incroyable, une véritable cocotte minute. Ils étaient là pour soutenir évidemment les joueurs du Stade Rochelet, Grégory Aldrit et ses partenaires à Bordeaux pour cette demi-finale face à Exeter. Et ces 40 000 Rochelet ont vu un spectacle magnifique, une démonstration de force des Maritimes. Ils ont rendez-vous d'ailleurs, ces joueurs, maintenant à Dublin pour la finale le 20 mai prochain.
Oui, ce sera la finale, une redite de la finale de l'année dernière. Et tu le sais, Arnaud, tu avais vécu ces matchs qu'on avait vécu au Parc des Princes avec le Stade français. Quand le Stade français, on avait rempli 45 000 personnes acquises à la cause du Stade français. Et il n'y a rien de mieux pour un joueur que de vivre ce genre d'émotion. C'est vraiment, vraiment fort. On a eu la chance de le faire au Parc des Princes. Là, imagine, voilà, tout le public rochelais, 40 000 personnes qui se déplacent pour voir leur équipe gagner. Enfin, je pense que c'est l'un, voire le plus beau public français aujourd'hui, et surtout quand ça gagne, tu vois. J'avais déjà parlé de Bordeaux, on a déjà parlé de Clermont, de Toulouse, enfin, mais le public rochelais quand même joue à guichet fermé depuis des années maintenant, champion d'Europe en titre. Ils vont aller récupérer, enfin ils vont aller et tenter de faire le doublé, en tout cas de gagner une seconde année consécutive. Mais le 16e homme, je pense qu'il y en a pas mal qui vont faire le déplacement sur Dublin. Il n'y aura pas que des gonzes du Leinster dans le stade à Dublin. Et chapeau au public, chapeau à cette équipe, chapeau à O'Gara, parce que quand même O'Gara, irlandais, qui va se retrouver sur ses terres et qui a quand même le toupet de dire que les mecs étaient à 30%. Il a mis 2-3 pièces au Leinster. Et je pense que ça va être une belle confrontation. Et voilà, le sujet principal de ce coup de cœur, c'est le public. Chapeau au public de La Rochelle, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des plus beaux, voire le plus beau en France. Ouais.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si les Rochelais nous écoutent, je pense qu'ils seront touchés par tes mots, Raph. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Poulain Rafute, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouvera évidemment toujours avec la banane et l'envie de faire vivre le rugby.
Ouais, content de te retrouver, Arnaud. Merci à toutes et à tous. Et merci à Adrien Ayot aussi qui est à la réalisation de cette émission. Salut, bon week-end rugby. À la semaine prochaine. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.